Eh bien bonjour, donc nous sommes dans une réunion ici à l'Institut des Libertés Médias. Et là, je reçois donc le président de l'Institut Aristote.
Du Cercle Aristote.
Du Cercle Aristote, pardon. Et que vous avez créé il y a donc 12 ans, ce qui est stupéfiant parce que vous avez l'air d'avoir 20 ans, mais enfin c'est très bien, vous restez jeune. Et j'ai été parlé une fois chez vous, je crois.
Tout à fait.
Vous organisez des réunions dans des cafés ou des choses comme ça?
Tout à fait. Aujourd'hui, en appartement privé pour éviter la discrimination sanitaire.
Ah oui, vous ne demandez pas à voir les billes.
Je ne suis pas auxiliaire de police, c'est un
métier. Très bien, vous avez bien raison. Moi, vous savez, la vieille blague, c'est qu'on s'est fait vacciner contre la variole pour pas avoir la variole, contre la tuberculose pour pas avoir la tuberculose, et contre le Covid pour pouvoir aller au cinéma. Donc moi, je suis vacciné, mais c'est pas pour aller au cinéma parce que j'y vais pas très souvent, mais c'est pour pouvoir prendre l'avion parce que malheureusement, je dois prendre l'avion. Bon, enfin, c'était dans un aparté. Donc, alors, je suis très curieux sur ce cercle Aristote, parce que vous me dites que vous l'avez créé il y a 12 ans, vous avez des gens qui viennent, il y avait beaucoup de monde sur le café ce soir-là où j'avais fait une réunion. Donc, expliquez-moi un petit peu ce qui vous a amené à créer le cercle Aristote, et ce qui vous a surpris dans ce que vous avez fait, comment ça évolue, et où vous voulez aller avec ça, voilà.
Alors, quand je crée le cercle Aristote, qui en réalité, c'était une association qui avait des buts et des tout à fait modestes, et qui est allé au-delà de ce que j'en attendais en premier. Quand j'ai cette idée-là, je travaille à l'époque déjà dans les rangs souverainistes où je suis entré à 17 ans. Je sors de ma première grande campagne, qui est la campagne du 29 mai 2005, que j'ai fait dans les rangs de Nicolas Dupont-Aignan et surtout de Philippe de Villiers. Et je me rends...
Rappelez pour les auditeurs ce qu'était la campagne de 2005.
Alors la campagne de 2005, c'était la campagne du référendum sur le traité constitutionnel européen. J'étais évidemment dans les rangs de l'opposition qui a fini victorieuse avant que Nicolas Sarkozy fasse une entourloupe de procédures. Peu importe, il l'emportera peut-être pas au paradis.
Ne fasse une forfaiture.
Forfaiture, tout à fait. Or, je me suis rendu compte d'une chose simple pendant cette campagne, mais... Plus encore, puisque je fais cette campagne à Paris et chez moi en Basse-Normandie, donc dans la région du Perchornais, et je me rends compte que mes anciens camarades de lycée, vu que j'en viens, je vais faire mes études à Paris, il y a un retour de la tripe nationale dans ma génération. Moi, je suis de 86. Et avoir les tripes, c'est le principal. Mais ne pas savoir les verbaliser dans le monde qui vient, parce qu'il n'y a pas eu de transmission culturelle, parce qu'il n'y a pas eu de transmission du savoir politique. Avant, il y avait des écoles héritées en politique.
Oui, non seulement il n'y a pas eu de transmission, mais il y a eu une volonté de ne pas transmettre, puisqu'on
Tout
pensait que la transmission, dans le fond, de l'amour du pays, c'était quelque chose qui était très mal. Il fallait... Donc il y a eu un problème, si vous voulez, c'est que l'éducation nationale... Contrairement aux hussards noirs de la République, à partir de 1960, c'est refusé à transmettre l'histoire de France.
Tout à fait. Et je me suis dit, ma génération finira, à un moment ou à un autre, à devoir prendre un rôle politique, ce qui est le cas de toutes les générations, et elle n'aura pas de culture politique, et elle va donc se mettre en position de domination, parce que, et c'est peut-être une illusion un peu positiviste de ma part, mais j'estime que plus on en sait, mieux c'est. Donc vous me direz, une brute qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis, c'est tout à fait vrai, j'ai rien contre les brutes, je dis qu'à un moment, il faut avoir un sens de sa direction.
Il vaut mieux un intellectuel qui bouge.
Voilà.
C'est exactement le genre de truc, si vous voulez, on répond pas à la question, parce que la brute qui marche, ça n'a aucun intérêt, l'intellectuel assis, ça n'a aucun intérêt. Donc, grosso modo, vous me posez le problème entre deux solutions qui ne m'intéressent pas.
Voilà. Et donc, à l'époque, la seule force du mouvement souverainiste, c'est que c'est un réseau d'élite. Que vous avez des gens qui sont... des cadres dirigeants de grandes entreprises, relativement peu, mais quand même quelques-uns, et vraiment choses assez sérieuses. Vous avez des universitaires, vous avez des gens qui ont une aptitude à transmettre. Le tout, c'est
de... Alors, définissez souverainisme pour moi.
Alors, le souverainisme, c'est, à mes yeux, c'est tout simplement de verbaliser une pulsion vitale. Est-ce que, dans l'avenir, de l'individu ou du collectif, est-ce que la forme France va survivre ? Oui, non. On peut penser à un monde sans la France.
Très bien. Non, mais c'est une bonne définition.
Voilà.
C'est,
donc,
c'est...
France,
donc,
pas France.
Donc, vous définissez la France comme l'objet de votre amour, en quelque sorte, et la question, c'est... sera-t-il encore là dans une ou deux générations ?
Tout à fait. Et l'objet, à la fois l'objet de mon amour et la protectrice, puisque je tiens à ce loin-là, et la protectrice de mon identité en tant que personne et de quelque chose qui m'est beaucoup plus cher, de ma liberté en tant que personne et de la liberté que j'entends donner à mes descendants et donc dans le cas présent à ma fille.
Très bien.
Donc,
je comprends très bien.
Chez moi, la pulsion tripale paternelle est très importante, elle l'a toujours été, c'est un fait psychanalyste. Voilà.
La patrie, c'est l'endroit où votre père est enterré, donc voilà, c'est la même chose.
Et si vous voulez, je me dis comment faire le go-between entre ces gens qui peuvent transmettre et une génération qui est demandeuse, pourquoi ? Parce qu'elle a été mutilée symboliquement et que pour une partie d'entre elles, j'ai pas dit la totalité mais une partie, elle en est consciente. Je ne crois qu'au contact direct. Je me méfie particulièrement dans le domaine du savoir des intermédiaires, pour différentes raisons. Et je me dis, on va voir si ces deux publics peuvent se supporter.
Ou se rencontrer.
Bon. Ça a commencé par les discussions. Alors les deux premières années, ça a été très dur parce que déjà, trouver des endroits dans Paris où la suspicion idéologique, si vous voulez, on aurait tendance, et légitimement, à croire qu'un tenancier de salle veut, tout simplement, louer sa salle.
Oui.
Et je me suis rendu compte que c'était, même sans problème de liquidité, c'était plus compliqué que ça en avait l'air, parce que il y a le candidaton et que des gens préfèrent s'appauvrir que d'affronter le candidaton. Pourquoi pas ? Et au fur et à mesure, parce qu'on va profiter de certains événements, on va profiter d'une partie d'actualité internationale avec la Russie, on va beaucoup travailler sur la crise financière après la chute de Lehman, eh bien, on va avoir un public de plus en plus nombreux, beaucoup de jeunes, des classes populaires, et de plus en plus les étudiants qu'on va suivre au fur et à mesure des années, pour atteindre la deuxième étape de ce que je voulais du cercle, parce que moi, il y a des hommes qui m'ont énormément marqué à titre personnel ou à titre idéologique. Dans mon cas, quelqu'un comme Régis Debray ou quelqu'un comme Jacques Sapir que j'ai le plaisir de connaître. Et je me suis demandé, on ne peut pas toujours exiger de gens qui ont déjà rendu des services gigantesques à la cause que ce soit toujours les mêmes caillots urbains. Pourquoi ? Parce qu'un jour, il y a nécessairement un passage de génération qui doit avoir lieu. Et je me dis, est-ce qu'on ne peut pas faire éclore à partir du cercle certains jeunes intellectuels ? Donc, nous nous dotons d'une maison d'édition associative, d'une revue trimestrielle qui s'appelle Perspective Libre, qui est aujourd'hui qui va sortir son 28e numéro là, sur la souveraineté numérique. Et on prend deux paris. Premièrement, d'arriver à rentabiliser l'édition des premiers livres de jeunes intellectuels souverainistes, parce que, je connais bien le milieu de l'édition pour différentes raisons, ils n'auront pas, ou très difficilement, de premier éditeur. Pourquoi ? Parce que le milieu de l'édition repose sur un truc simple aujourd'hui, qui est, dès que vous faites un truc intelligent, on vous demande soit de participer à l'édition de votre ouvrage, ce qui fait que c'est plus un compte d'éditeur, c'est du compte d'auteur déguisé. Les gamins n'en ont pas les moyens. Soit, on vous fait un peu comme ces petites annonces marrantes que vous voyez parfois en boucherie, cherche élève de 18 ans avec 8 ans d'expérience, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est-à-dire que pour un premier ouvrage, vous devez déjà avoir un public, ce qui est quasiment impossible. Donc, nous, on a pris le pari de lancer de jeunes intellectuels. On l'a fait soit en soutenant leurs éditions dans d'autres maisons amies, soit en les publiant directement. On est arrivé à équilibrer la chose. contre beaucoup de pronostics, vu qu'on a beaucoup tenté de m'en dissuader. Et on a fait monter, je vous donne un exemple, un des jeunes hispanisants les plus doués de ce temps, Nicolas Klein, qui est devenu, qui est maintenant, passe dans tous les médias, y compris mainstream, a débuté Cercle Aristote. Et c'est une de nos grandes réussites, lui, Clément Nguyen, quelques autres de ce type-là, parce qu'il suffit de pousser, et vu la technicité de nos gamins, on ne s'en rend même pas compte, parce qu'on ne les évalue pas. Mais ils s'imposent, d'ailleurs sans briser trop de vaisselle, très naturellement par leur hauteur de vue. Il suffit de la pichenette nécessaire. On a pris une deuxième option. J'ai toujours remarqué dans mes contacts avec le milieu de l'édition que il y a en France comment dire, une xénophilie que je peux parfois qualifier d'excessive. Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez prendre le livre le plus politiquement incorrect, publié par un auteur anglo-saxon. Les mêmes maisons d'édition qui le refuseraient s'il était français le prendront parce qu'il est anglo-saxon.
Et ça aussi parce qu'il a vendu 1 million d'exemplaires.
Alors,
c'est souvent le cas, apprenez.
Alors, il y a les ventes,
le
mais.
Type, il a déjà été un succès dans le monde anglo-saxon, donc on se dit qu'il doit être sérieux.
Alors, il y a tout à fait ce point-là. Mais même avec des auteurs mineurs, on l'a constaté, et beaucoup d'éditeurs s'en sont ouverts très facilement en disant, au moins, j'aurai pas de procès, j'aurai pas d'ennui, et les journalistes, vu que déjà ils lisent moyennement quand c'est un Français, quand c'est un étranger, je ne vais pas me faire descendre en flammes. Et donc, on a lancé une optique de traduction. Donc, il y a énormément d'auteurs étrangers dans Perspective Libre. Donc, traduction tous azimuts. Mon équipe travaille en 7 langues de travail. Enfin, 7 langues courantes, 4 autres langues optionnelles. Et nous faisons intervenir des auteurs étrangers et nous les faisons traduire en France sur des points de vue qui sont parallèles aux nôtres. On a fait traduire, là on a lancé ce module-là il y a 3 ans, on a fait traduire 10 livres déjà, dont certains, sur l'histoire de l'Union européenne ou d'autres, ont été vraiment, vraiment rentabilisés. Sinon, les éditeurs, et là on parle d'éditeurs assez lourds, hein, le Toucan l'Artilleur par exemple, qui est quand même la maison d'édition de Delval, de Rioufol, de Philippot, de quelques autres. On a traduit pour les Belles Lettres, on traduit pour pas mal de gens sur des auteurs qu'on va chercher. On fait le packaging, on essaye de convaincre l'éditeur et on lui garantit le tout clé en main. Ça a plutôt bien marché. Et ça, c'est la manière dont nous fonctionnons actuellement. Événement, édition, traduction, formation.
Alors l'aspect formation, qu'est-ce que vous faites en dehors? Vous faites vos séminaires.
Alors, on fait les
Vous pouvez
séminaires.
dire, des gens qui parlent et qui
Alors,
expliquent.
on fait les séminaires. On fait du soutien aux jeunes enseignants-chercheurs pour leur thèse, pour leur master 2, etc. De plus en plus, on va s'orienter vers des formats payants, bon marché, mais payants, là, de formation pure, c'est-à-dire avec des cours, tout simplement. On essaye surtout de soutenir, c'était la troisième étape où je voulais en venir quand j'ai créé le cercle, mais je ne pensais pas qu'on arriverait jusque-là, c'est de soutenir l'émergence des réseaux économiques de la jeune génération. C'est-à-dire d'aider certains à monter leurs entreprises, d'autres à entrer dans une logique de collaboration inter-entreprise. Et ça se lance sur d'assez bonnes bases en structurant des réseaux interpersonnels autour du Cercle Aristote de Paris, de ses 9 antennes de province. Et je compte en ouvrir une dizaine pendant la période électorale, dont 2 à l'étranger. Voilà.
Très bien. Et donc ça, quelque part, vous avez entendu parler de l'Institut de formation politique,
De l'IFP, oui, bien
de
sûr.
l'IFP, de ce bon Alexandre Pesé, parce que, bon, c'est pas. Mais mettons, il y a des points communs dans la formation, dans le. Voilà, je dis pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que l'IFP, c'est une. C'est une formation parallèle qui est offerte par l'Institut de formation politique et qui, dans le fond, essaye à faire ce que Sciences Po faisait il y a 50 ans, c'est-à-dire apprendre aux gens à réfléchir, plutôt que d'apprendre ce qu'il faut savoir dire quand on veut. C'est plutôt apprendre à réfléchir par vous-même, à savoir qui vous êtes et à savoir ce que vous devez penser. Enfin, c'est un peu votre projet aussi. Donc, ça va très bien. Alors, je vois très bien ce que vous faites. C'est un objectif d'éducation, de formation et d'information. Ce qui veut dire que vous devez porter un jugement assez sévère sur ce qui était autrefois les outils de formation, c'est-à-dire l'éducation nationale et la presse, quoi.
C'est le moins qu'on puisse dire, oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Sur l'éducnat, qu'en plus j'ai énormément de jeunes profs sous mes ordres, j'ai enseigné moi-même, j'ai une ou deux idées du sujet, et sur la presse, c'est une engeance que je fréquente depuis une quinzaine d'années.
Alors expliquez-moi ce qui s'est passé dans la presse en France, parce que quand j'avais votre âge, bon, vous pouvez en penser tout ce que vous voulez, mais enfin, il y avait quand même d'abord différentes opinions, puis des belles signatures, et puis des gens qui réfléchissaient. Raymond Aron, Revel, tout ça, ça écrivait dans la presse, c'était pas rien. Bertrand Jouvenel. Et aujourd'hui, je suis frappé par l'extraordinaire effondrement du niveau intellectuel des journalistes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les écoles de journalistes qui ont tout foutu en l'air? Parce que d'abord, on arrivait à la presse dans la presse par hasard, littéralement.
Tout à fait. C'était les flâneurs salariés.
C'était les flâneurs salariés, ils venaient comme ça, ils écrivaient, puis on disait, écoute, c'est pas mal ce que tu fais, donc on le... Et ils devenaient journalistes, c'était le Bouvard, ou... Je plaisante, mais enfin... Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on en a fait une espèce de profession de tâcheron mal payé, quoi.
Alors...
Est-ce que j'ai tort?
Je suis entièrement d'accord avec vous. Vu de ma fenêtre, moi, je considérerais principalement... trois légers points. Un, qui est l'effondrement et la standardisation de l'effondrement du niveau des écoles. C'est-à-dire que, à la rigueur, parce que là, on est face à des formations pluralistes. On va être très clair, l'ENA, il n'y en a qu'une. Bon, elle s'est effondrée, ok. Là, vous avez plusieurs écoles de journalisme, on en a même qui ouvrent, et la concurrence n'augmente pas le niveau. Étonnant, très étonnant. Or, pourquoi? Parce que, premièrement, Le business plan de la presse est clair. On a de la presse en France, non, pour aujourd'hui pour faire une opinion, non pour entrer dans une logique d'entreprise, mais pour pouvoir peser dans une stratégie de lobbying vis-à-vis des gens. C'est un outil d'influence. Résultat, le journaliste là-dedans devient un exécutant strict. Pire, il en est conscient et souvent très content. Je vais vous donner un exemple. Je reçois un coup de fil, il se trouve que des vicissitudes de ma vie, je vis à Strasbourg. École de journalistes de Strasbourg. Ok. Dans le cadre de notre exercice annuel, nous voudrions vous interroger. Je dis ok, très bien. Parce que vous êtes un opposant vivant à Strasbourg de la politique du gouvernement sur le Covid. Bon, autrement dit, super, je vais me faire afficher encore un coup, génial. Où est-ce que vous habitez? On vous envoie une équipe chez vous, etc. Donc, trois gamins qui débarquent. Et je veux pas le outer ou le trahir, un d'entre eux me fait signe qu'il voit très bien qui je suis, qu'il participe à un des cercles de province, mais que je ne l'avais pas reconnu. Et le gamin est très au-dessus du lot. Puis à un moment, je lui dis, je prends à part. Pourquoi tu t'es mis là-dedans? Tu te rends compte de... Il me dit, t'en fais pas. S'il se doutait de ce que je pense, je serais saqué et liquidé. Moi, j'ai déjà vu des gens qui étaient majors d'école de journalisme. Dernier exercice, ils interrogent au Parlement européen quatre députés, dont Bruno Gollnisch, dans exactement les mêmes termes. Le fait que ça ait été dans les mêmes termes leur coûte leur place. École journaliste de Strasbourg. Je leur dis, bon, il dit, écoute, Pierre-Yves, si on le fait pas, eh bien, c'est le moyen niveau et c'est le bas niveau qui va tout de suite s'imposer si certains d'entre nous ne se dévouent pas pour le faire. Il me dit, tu veux voir le niveau? Viens voir avec moi. Il me ramène vers les deux autres. Il me dit, toute l'année, on a travaillé que sur le dossier Covid. Je dis, ah bon? Bah super! Eh bien, j'interroge le premier qui passe. Vous pensez quoi de Christian Perron? De qui?
Ah oui, c'est déjà intéressant.
Là, bon, très bien. Et là, j'avais le troisième, il n'était pas un mot, pendant tout l'interview, pas un mot. Puis à un moment, je titillais, quoi. Et toi, quelle est la vision que tu as de ta profession? Ça m'intéresse. Et là, il me répond. Le jour où mon rédac chef me demande de flinguer un mec, je le flingue, ok? Et là, je regarde chez toi, quel âge tu as? 22 ans, tu iras loin. Et en réalité, une partie de l'appareil journalistique a compensé la médiocrité de son recrutement, la médiocrité de ses conditions sociales, vu qu'il y a eu également
oui,
un
un
baissement du niveau
écrasement.
de vie, par le fait de se dire, nous sommes les commissaires aux idées propres de la société. Nous faisons un travail ingrat, mais c'est nous l'avant-garde. Et donc, le fascisme ne passera pas, vu que.
Oui, mais enfin, il est passé par eux.
Et il est tout à fait passé par eux,
Il passe
mais.
pas, ils s'en rendent pas compte, les pauvres fous, ils sont trop.
Bien sûr.
Bon, alors ça, c'est donc on a une espèce d'effondrement de la presse, on a un effondrement de l'éducation. Et alors, j'en ai discuté un jour avec un homme que j'aime bien, qui s'appelle Mathieu Boccoté. Et lui, sa thèse, c'est que pour s'en sortir, il faut que des groupes se créent, qui communiquent les uns avec les autres, un peu comme les monastères pendant l'effondrement de la civilisation au 9e ou au 10e siècle, pour maintenir, les idées et les gens qui sont capables d'avoir des idées. Bon. C'est une idée intéressante, mais c'est une idée un peu triste, parce que ça veut dire qu'on laisse tomber la masse de la population à qui on refuse de penser convenablement, quoi.
Tout à fait. Et je suis même pas certain, pour tout vous dire, j'ai rien contre l'idée en soi. Mais comment dire, ça laisse à l'adversaire les blancs, pour parler comme aux échecs. Vous laissez à l'adversaire le privilège de l'offensive. Et ils vont pas le laisser passer, pour les
Non, mais
connaître un petit peu.
c'est-à-dire qu'on est en quelque part. La résistance, c'est toujours le fait de 10 ou 15% des gens, puis il y en a 85 qui sont contents de ne pas bouger, qui de rester tranquilles et de survivre. Donc, ils savent très bien la raison pour laquelle, par exemple, on a le novlangue, vous savez, la façon de parler, c'est que, comme disait Solzhenitsyn, si vous vous mettez à dire ce que vous pensez, vous êtes repéré tout de suite. Et donc, en étant repéré tout de suite, c'est très facile de vous éliminer. Donc, moi aussi. Donc, tout ça, on sait très bien que nos ennemis sont emparés. Enfin, nos ennemis, oui, sont des vrais ennemis d'ailleurs, parce que ce sont des ennemis intellectuels et qui sont contre la liberté de penser. Donc, ce sont littéralement des gens qui pêchent contre l'esprit, c'est-à-dire qui sont condamnés à la damnation. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que les forces qu'on a contre nous sont extraordinairement prégnantes. On a cru à un moment qu'avec l'aide de l'Internet, on allait pouvoir se retrouver à un dialogue. Et, mais on voit très bien que l'Internet a été capturé par 5 ou 6 sociétés et que, ben, au contraire, ça a accru la pesanteur plutôt que ça n'a diminué. Donc vous vous dites, ce qu'il faut, c'est passer par la communication orale, comme tête à tête, face à face, individu par
Alors,
individu.
si vous voulez, ça, il est évident que, en termes d'objectifs chiffrés, ça sauvera pas tout le monde. Ça, c'est évident. Mais, premièrement, alors, on a fait énormément de ce qu'on appelle vulgairement de la création de contenu. On est assez présent sur Internet, etc. Mais je pense en plus, et ça, c'est quelque chose peut-être qu'on n'a pas toujours vu dans le camp national, parce que c'est un peu typique. Ça commence avec ma génération. C'est qu'on ne se rend pas compte que le délabrement anthropologique de nos sociétés agit comme un pouce au crime vis-à-vis des générations les plus jeunes. Un chiffre qui n'interpelle personne. Le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans, la première chez les 24-35 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent s'en aller plutôt que de faire corps avec une société qui leur renvoie une image de mal-être et qui elle-même est profondément malade. Or, je pense, à tort ou à raison, que maintenir un lien social personnel sert aussi à protéger nos jeunes d'une sorte de syndrome de glissement anthropologique. Je m'explique. Imaginez ce que c'est aujourd'hui quand vous aimez votre pays et que tous les jours, vous vous faites cracher à la figure par une presse que vous payez, de surcroît, qu'elle est un foutu de vivre comme une entreprise normale.
Non, non, elle ne vit que de subventions.
Elle s'autorise à vous insulter. Elle
Je connais.
Voilà. Vous entrez dans des organes d'État où vous voyez que la plupart des gens qui y sont ne rêvent que d'avilir la France comme nation et d'avilir l'État. Très bien. Vous entrez dans des entreprises.
Et d'en profiter.
Et d'en profiter.
C'est-à-dire d'en retirer plus qu'y mettre, ce qui est quand même un truc étonnant quand on est un fonctionnaire.
Exactement.
C'est un scandale.
Et de l'autre côté, vous vous dites, bon, je vais aller dans une sphère, dans une entreprise privée, au moins, je vais compartimenter ma vie et tout ira bien. Aujourd'hui, par un phénomène de mimétisme effrayant, nos entrepreneurs se disent, je vais peut-être mettre un peu de wokistan dans ma boîte, comme ça, on me foutra la paix. Et aujourd'hui, moi, je vois des gens qui m'envoient de la part d'entreprises du bâtiment. On est loin, hein. Des emails en écriture inclusive et en disant attention, n'oubliez pas que dans les conversations interpersonnelles, ne vous laissez pas entraîner à faire des fake news, etc. Et à un moment, je me dis, attendez, la panoptique benthamienne est à plein. Maintenant, tout le monde... à croire que l'Occident est devenu une fabrique industrielle de flics, à différents degrés. Or, on se rend pas compte que c'est en train de bousiller le meilleur de nos jeunes générations, qui s'autodétruisent. Donc,
et moi, surtout qu'ils apprennent, ce qui est affreux, qu'il est dangereux d'avoir une opinion personnelle. C'est-à-dire que c'est ce que je me tue à dire aux gens. Ils me demandent qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu devrais lire, ce que disent les opposants politiques, etc. Je leur dis, écoutez, j'ai déjà assez de mal à savoir ce que je pense. Je ne vais pas m'essayer de réfléchir toute ma vie pour essayer de comprendre pourquoi les autres pensent de travers. Parce que ça ne m'amène à rien. Le but d'une vie, c'est de savoir ce que l'on pense soi-même et que, profondément, quelles sont les choses qui vous font bouger. Mais l'idée qu'on va essayer de comprendre pourquoi les autres disent ce qu'ils disent, à ce moment-là, on ne s'en sort plus. Il n'y a d'amélioration que personnelle, il n'y a pas d'amélioration collective.
Bien, déjà, on ne s'en sort plus. Et puis, deuxièmement...
Et en plus, on a l'esprit biaisé.
Deuxièmement, ils sont arrivés à faire que vous ne pouvez plus échapper à leurs paroles. Avant, moi, je viens d'une famille d'indépendants. Mon père est médecin généraliste dans une région pauvre, donc il s'occupe des gens 15 heures par jour, 6 jours par semaine. Avant, vous aviez au moins votre entreprise, où vous étiez indépendant, vous foutez la paix. Maintenant, il n'y a plus de part pour l'intimité. Ils ont mis le discours totalisant comme un bruit de fond sociétal, ce qui fait que vous entrez dans n'importe quelle sphère sociale, ça vous saute à la figure. Et résultat, un mot de travers.
Et vous êtes mort. Vous savez ce que disait Bernanos, c'est que le monde moderne est une conspiration contre la vie intérieure. Je l'ai toujours trouvé assez juste. Quoi.
Oui, c'est bien vu. Aujourd'hui,
il y a un bruit partout. On peut plus réfléchir par soi-même parce que le bruit vous submerge.
Bien sûr. Et donc moi, c'est la seule chose que je peux faire pour les miens. Je leur dis, écoutez, dans ces murs, vous avez le droit de penser, de dire ce que vous voulez. Vous allez vous confronté amicalement avec quelqu'un qui va vous apporter des choses et lui apporter des choses. On va passer un moment en plus sympathique.
Ce qui est important qu'il faut expliquer aux jeunes, c'est qu'il ne peut pas y avoir de confrontation intellectuelle sans blessure. C'est-à-dire que si je me confronte intellectuellement à quelqu'un et qu'il a des idées qui me dérangent profondément, ça veut dire que... il faut que je réfléchisse sur mes idées. S'imaginer qu'on ne... être d'accord avec quelqu'un, c'est un progrès. Non, ce qu'il faut, c'est accepter d'être désaccord et accepter, dans le fond, qu'il vous ratatine. C'est-à-dire d'apprendre. C'est ce que disait Nelson Mandela. Il disait, je n'ai aucun problème avec la vie parce que soit j'ai raison et je progresse, soit j'ai tort et j'apprends. Et je crois que c'est ce qu'on a oublié dans le monde d'aujourd'hui.
Moi, c'est ce que je leur dis, surtout quand je vois arriver les plus jeunes. Je leur dis, vous savez, quand vous faites un débat avec quelqu'un, il faut toujours savoir jusqu'où on veut aller dans la vie. Il y a des débats, il y a des postures. Le problème d'un débat, c'est que vous prenez le risque de penser différemment après qu'avant.
Exactement. Et si vous ne pensez pas différemment après qu'avant, c'est que probablement ça n'a pas été un très bon débat, ou que votre adversaire était nul, ou que vous, vous êtes bouché, ou il y a quelque chose. Parce qu'il y a toujours quelque chose. Moi, j'ai toujours beaucoup appris. Il y avait un moment où il y avait des chrétiens de gauche qui m'agaçaient beaucoup, mais je lisais ce qu'ils faisaient parce que ça me faisait penser différemment, quelque part. Ça orientait, ça m'évitait d'être trop manichéiste. Donc ça, c'est intéressant. Donc, ce qu'il faut, c'est redécouvrir les vertus du conservatisme tolérant, quoi. C'est ce que
j'essaye de dire aux plus jeunes. Sinon, vous faites de la posture. La posture, c'est autre chose. Vous arrivez...
C'est du théâtre.
C'est du théâtre. Vous, votre objectif n'est pas le dialogue avec la personne. Votre objectif est la personne qui est derrière, soit la caméra, soit le public, etc. Et donc, il est là pour poser, vous êtes là pour poser. C'est un accord tacite, un gentleman agreement entre vous dès le début. Vous ne vous écoutez pas. Essayez que ce soit quand même un tout petit peu raccord pour que ça ne se voit pas trop. Là, après, c'est ce que vous êtes bon acteur ou pas. Mais ça, c'est pas un débat. Ça, c'est une posture. Si vous y allez méchamment, c'est que vous voulez écraser la personne ou qu'il est venu vous écraser. À titre personnel, par exemple, ça on me l'a demandé, j'ai toujours refusé de le faire. J'ai fait venir certains de mes adversaires idéologiques. J'avais fait venir Henri Weber, il est venu nous faire une danse du ventre, trotsko-européiste. Bon, très bien. D'ailleurs, de très bonne qualité, c'est un très bon danseur. Mais j'ai fait venir des gens comme Jean Arthuis, comme d'autres. Quand on est en désaccord, on sait qu'on est en désaccord. Moi, je me suis toujours refusé à piéger les gens. Par contre, j'essaye, c'est d'avoir la meilleure programmation, parce que on fait quand même 3 vidéos de contenu par semaine à peu près, la meilleure programmation avec des gens. Moi, j'estime que dans un pays sans souveraineté, on ne s'engueule pas, il n'y a pas d'enjeu. Et donc, de la gauche radicale jusqu'à la droite dite radicale, toute personne qui a un discours posé, structuré, qui a un livre qu'il nous envoie avant, qu'on étudie, on dit d'accord, pas d'accord. Ce qui compte, c'est la qualité du travail. Et après, on en parle. Après, il y a des gens, très peu d'ailleurs, faut être honnête, et au fil des années, de moins en moins, qui refusent de venir, mais c'est aujourd'hui devenu très rare. Mais moi, j'ai reçu des gens qui étaient, par exemple, néo-staliniens. J'ai reçu des gens qui étaient identitaires durs. Et ce qui me fait doucement rigoler, c'est la suspicion dont mes équipes font l'objet de la part de la totalité de la presse. Je me rappellerai toujours un truc croquignolet. On a reçu presque 500 personnes au Cercle Antoine. Et un jour, un journaliste me dit « On m'a commandé, le « on » étant resté un mystère pour moi, un article sur vous. » Connaissant les us et coutumes, j'ai dit « Bon, votre article est déjà prêt, donc vous m'appelez pour dire que vous m'avez appelé. » Bon, très bien. Et il me dit « Est-ce que je peux vous poser une question ?» Je lui ai fait « Donc, de toute façon, vous me gênez déjà suffisamment. » Et il me dit « Oui, j'ai remarqué 3 personnes d'extrême droite radicales sur votre liste. » Je lui ai dit « Oui, sur 500, il y en a 3, oui. » Il me donne 3 noms, qui sont Jean-Paul Gourevitch. Alors là, je m'éclate de rire. Les experts onusiens, bon, l'ONU prend dans l'extrême droite maintenant, pourquoi pas. David Mascret, qui est un jeune géopolitologue très sympathique, catholique. Et le dernier, c'était Pierre Cassen, donc de Riposte Laïque. Je lui dis, de toute façon, votre truc est déjà écrit, donc écrivez ce que vous voulez. Il faut que vous compreniez que quand on a reçu 500 personnes, on ne peut pas être d'accord avec tout le monde en même temps. Parce que c'est statistiquement impossible. Or, il dit oui, mais c'est suspect. Écrivez que c'est suspect, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et aujourd'hui, vous ne pouvez même plus vous dire, écoutez, je ne fais que donner une tribune à quelqu'un dans le cadre d'un échange libre. C'est, même ça est interdit, donc, sauf si c'est le système qu'il fait venir un opposant 10 minutes pour pouvoir lui cracher la figure pendant une heure, et ça c'est autorisé.
Ce qui est autorisé, c'est d'envoyer un gars, ça m'est arrivé souvent, où on m'invite quelque part, et on met en face de moi 4 personnes qui sont censées représenter des trucs différents, mais qui dans le fond, donc un objectif les 4, c'est me taper dessus. Et donc on dit, vous voyez, on a un pluralisme d'opinion, il y en a 4 sur 5 qui ne sont pas d'accord avec ce que dit M. Gave. C'est une façon tout à fait honnête de travailler, qui honore ceux qui la font, mais ça ne m'a jamais gêné, parce que je n'ai jamais eu peur des autres, mais voilà ce que je veux dire. Mais... Donc où allez-vous à partir de maintenant? Et parlons un petit peu de la situation française, tiens, puisque maintenant on a bien exploré le sujet de la méthode, si j'ose dire. Essayez, vous êtes un petit peu... vous pensez qu'on convertit les gens un par un, quoi, qu'on ne les convertit pas en masse, sauf à leur donner les coups de baïonnette pour les convaincre. Mais alors maintenant, expliquez-nous ce qui va, quelle est votre vision de ce qui va se passer en France dans les 12 mois qui viennent, parce que c'est, on arrive à un moment charnière, un peu, enfin, me semble-t-il. C'est-à-dire que cette élection est une des, sans doute une des plus importantes qu'on ait jamais eues, quoi, me semble-t-il aussi, mais peut-être vous n'êtes pas d'accord.
Objectivement, comme dirait l'autre, j'attends le moment où ça va finalement se décanter. Parce que de toute façon, il va y avoir une décantation légale qui va être les signatures. Février, boum, couperet tombé. Et moi, ce que je vois m'effraie. Parce que je pense que Emmanuel Macron... Parce qu'il apporte avec lui le vide de la société liquide, il a une particularité que Sarkozy aurait voulu avoir, c'est qu'Emmanuel Macron est indifférent aux dégâts psychologiques qu'il fait à la population, bien au contraire. C'est-à-dire que s'il laisse une politique de terre brûlée, ça ne le dérange pas. C'est sa différence avec les deux qui l'ont précédé, qui étaient tout aussi nuls.
Qui étaient aussi nuls, mais cet homme n'aime pas les autres. Il n'aime que lui-même.
Et il se raidit là-dedans. Ça se voit quand la presse. Il suffit de lire la manière dont le château est organisé aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a viré quasiment tout le monde. Toute personne qui a alors que c'est important pour un chef d'être contredit. C'est la qualité de l'homme qui vous contredit dans votre équipe qui fait.
Ce que j'ai dit un jour dans une émission sur Sud Radio, j'ai dit, je pense que Macron est idiot parce que dans le monde des affaires où j'ai vécu toute ma vie, vous avez deux sortes de chefs. Vous avez ceux qui embauchent déjà des gars qui sont meilleurs qu'eux, de façon à s'améliorer en contact de ceux. Puis voilà, ils les respectent parce qu'ils sont. Et puis vous avez ceux qui embauchent que des gens qui sont moins bons qu'eux. De façon à pouvoir les mépriser et les amener plus bas que terre. Et ça, les entreprises, ça pète toujours la gueule. Et Macron, il s'est entouré que d'incompétents, ce qui est extraordinaire quand on y réfléchit. Je ne connais pas le nom, par exemple. Vous me demanderez qui est le ministre du budget aujourd'hui, même le ministre des Finances, je ne sais pas, quoi. Je ne sais pas. Honnêtement, je me souviens plus.
Ils sont transparents derrière le papier peint, c'est génial.
Oui, on ne sait pas qui c'est. Donc, si vous voulez, cette espèce de sélection, de me mettre au sommet et de dire tous les autres sont nuls... C'est dur. Et bon, ça, c'est le premier point.
Malheureusement, dans la grande psychopathie collective dans laquelle il emmène le pays, ses buts sont clairs parce que malheureusement, il est rationnel dans le mal qu'il entend faire. Il est totalement rationnel. Son but est tout bête. Il a concassé la totalité des oppositions pour une raison, c'est qu'il a aidé ses oppositions à se concasser idéologiquement. Lui ne fonctionne pas idéologiquement, il fonctionne par une logique de classe et de mandant pur. Où il dit, écoutez, il y a, 10-11% du corps électoral qui va bien et qui pense que le plus simple, c'est que eux aillent bien et que les autres, c'est négociable. Eh bien, Emmanuel Macron dit, mes chers amis, nous sommes 11% des inscrits, nous faisons déjà... 20% des exprimés.
Des votants.
Par la magie de mon système de gouvernement, je vais envoyer les classes populaires dans l'abstention longue en les écœurant et en les humiliant.
Oui.
Laissez-moi faire. Et je vais concasser ce qui est en face de moi sans aucun mal. En donnant, en faisant le fameux en même temps. Le en même temps, c'est une arme de guerre cognitive. C'est-à-dire que vous prenez tout simplement l'utilisation psychologique de l'oxymore. Vous prenez quelque chose qui n'a rien à voir, vous les associez, vous les mettez dans une seule idée, et les gens s'arrêtent psychologiquement parce que vous faites entrer dans le réel quelque chose qui est une chimère, qui ne devrait pas exister. Je vais vous donner un exemple avec le dernier coup. Il a besoin de la police, vu qu'il lui a fait couper des mains, crever des yeux, très bien. Vous allez avoir la gratuité du train. Et de l'autre côté, le même homme, le même jour, donne aux associations Sorosites qu'un organe indépendant contrôle la police au nom des droits de l'homme, ce qui est une vieille revendication de l'Open Society pour des questions de racisme, de tout ce que vous voulez. Le même jour, le même homme fait les deux, qui théoriquement l'une annule l'autre, enfin c'est, ça n'a pas de sens. Résultat, la partie non pensante de nos forces de sécurité intérieure tombe dans le panneau, les gauchistes tombent dans le panneau, tout ça sur une tranche de pain complet, avec un seul petit nœud, tout le monde a compris. C'est le seul petit cadeau pour tout le monde. Il va multiplier ça, donc ça va concasser l'opinion sous les coups de l'absurdité. Idéologiquement, tout le monde va être fasciné par lui alors qu'il est vide. Et résultat, voyez la sphère électorale telle qu'elle est. Toute la gauche veut faire du macronisme de gauche. Le centre veut rester macronien. Les LR veulent faire du macronisme de droite. Et même une partie de la droite dite de conviction veut faire de la droite radicale macronienne. Résultat, il s'est mis au centre du jeu, il attend, et pour l'instant, ça ne me fait pas plaisir, croyez-moi, j'espère me tromper, pour l'instant...
Le grand danger de sa stratégie, si vous voulez, si on le voit très bien, c'est que d'un seul coup, les 50% de gens qui ne vont plus voter se remettent à voter. À ce moment-là, c'est le truc qui le tue.
Ça. Ça, c'est le truc, c'est le seul truc qui peut le tuer.
C'est le seul truc qui peut le tuer, c'est qu'il y ait quelqu'un qui sorte et qui, d'un seul coup, fasse voter les non-votants. C'est ce qui est arrivé avec Trump aux États-Unis.
C'est exactement ce scénario-là qui, pour lui, est le scénario noir.
C'est le scénario terrifiant pour lui.
Il y a, au sein du système qu'il a créé, il n'y a qu'une seule petite faille interne à abstention constante. C'est que 3 ou 4 candidats de Boboland arrivent aux signatures et grignotent son avance petit à petit, ce qui lui ferait rater le deuxième tour.
Voilà, le vrai danger, c'est qu'on se retrouve à 6 ou 7 qui chacun font 10%, et qu'on ait 2, 10% complètement improbables, qui font 10,5 contre les autres 9,5, à ce moment-là, on se retrouve avec deux gars dont on n'attendait pas. C'est un autre danger pour lui. C'est-à-dire que tout le monde se dit, bon, Macron ou un autre, c'est pareil, je vais pas me tracasser. Mais imaginons qu'on se retrouve dans un monde que vous décrivez, où le pouvoir en place continue à n'avoir aucune légitimité, qui est une notion ancienne en sciences politiques. Il y a la légalité, il y a la légitimité. Et aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire, c'est que les soi-disant élites ne sont plus légitimes. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus.
Si vous voulez, ça prouve qu'il n'y a plus de problème, qu'on n'a pas de problème oculaire là maintenant, au stade où on en est.
Donc, grosso modo, on se retrouve dans un monde qui est extrêmement difficile, parce qu'il y a quand même des problèmes importants pour la France, qui arrivent, enfin, qui sont là depuis 40 ans, mais qu'on a mis sous le tapis depuis 40 ans. Et qui ne sont pas simplement l'immigration. S'il y a un pouvoir complètement illégitime, à un moment où il faut prendre des décisions très difficiles, c'est dangereux pour la société, ça, parce que ça amène naturellement à la violence. La démocratie, c'est une façon d'éviter la violence en politique, hein, mais, que ce n'est pas celui qui a la plus grosse masse, celui qui gagne. Mais voilà, on va avoir des problèmes qui nous attendent. C'est-à-dire, les gens semblent attendre des élections, je crois pas qu'ils y croient beaucoup, mais ils attendent des élections en se disant, ben, peut-être les élections vont régler le problème, mais c'est pas sûr du tout. Ça sera bien peut-être encore pire après, quand même.
Bon. Si vous voulez, le jour de l'élection d'Emmanuel Macron, un camarade me tend un micro et me dit, qu'est-ce que t'en penses ? Je lui dis, écoutez, vu la manière dont Emmanuel Macron a gagné, il a légitimé par avance tous les actes qui seront entrepris contre lui.
Voilà.
Donc,
Le simple coup d'État contre Fillon, c'était déjà...
Rien que ça, le
rend illégitime.
Et là, on arrive au moment où... Alors, il est xénocrate, donc il prend ses ordres à l'étranger. C'est pas toujours le même étranger, mais souvent, c'est quand même dans une ligne qui est entre Bruxelles et Berlin. Souvent, parfois ailleurs, ça se voit de plus en plus. Il pousse à l'écrasement des populations, à l'humiliation.
Des petites gens.
Et
c'est insupportable. Il méprise, il n'aime pas. C'est très curieux, je crois que c'est la première fois dans l'histoire de notre France qu'il y a un roi, si j'ose dire, qui n'aime pas le peuple.
À son point à lui, ça n'a pas d'équivalent. Or, peut-être ne s'en rend-il même pas compte parce qu'il est, enfin, il est solipsiste. C'est-à-dire que toutes nous. J'en ai parlé avec plusieurs experts du comportement, on est arrivé aux mêmes conclusions. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est que c'est quelqu'un pour qui nous sommes quasiment tous des projections holographiques de son propre esprit. C'est-à-dire que nous n'avons d'existence que par rapport à lui. Donc, vous voyez, il peut se permettre toutes les cruautés parce que nous ne sommes que des virtualités du monde centré sur lui. Bon, très bien. Ça, c'est des profils dont on peut faire beaucoup de choses, mais c'est des profils dont on ne peut pas faire des chefs d'État. Parce que, si vous voulez, faire de la politique sans aimer les gens, moi, je veux bien, mais à un moment, il y a un minimum.
Oui, tout à
Or,
fait.
aujourd'hui, nous arrivons à un point où Macron a prouvé à une partie de la classe, disons, comprador, je suis votre meilleur placement. Je sais que vous avez des doutes sur ma santé mentale, sur le fait que je sois difficile à tenir, oui. Mais quand il a fallu user de la violence gratuite contre les petites gens, je l'ai fait avec plaisir, avec les équipes d'un cube et de succube qu'il a trouvé aux quatre coins, les Castaner, les Lallemand, etc. Enfin, tout ce qu'un État démocratique normal ne devrait pas sécréter. C'est-à-dire des gens qui sont avant tout du gibier de basse criminalité. Et ça, la droite molle ne vous a jamais donné le sang des prolos. Moi, je vous ai donné ça. Et eux iront voter pour lui comme un seul homme. Son but, c'est là de maintenir les taux d'abstention. Alors, certes, légèrement amoindris, parce que on n'atteindra jamais dans une présidentielle les taux d'abstention d'une régionale.
Ou
Mais
des
là,
législatives, ou la dernière
ou la
on
dernière
était à
législative,
50%.
c'est du moment que les prolos y vont pas, tout va bien. S'il y a venu en masse, c'est vraiment le scénario noir. Et après, il a qu'à donner quelques coups de trique pour que le bloc bobo soit bien gardé. C'est-à-dire que Madame Hidalgo rentre dans le rang, Monsieur Jadot rentre dans le rang, et Madame Pécresse rentre dans le rang, vu que c'est les seuls qui grappillent à la marge son électorat. Ce que même Monsieur Bertrand n'arrive pas à faire.
Non. Bien, bah écoutez, tout ça n'est pas bien encourageant. Mais on va voir un petit peu ce qui se passe. Faut jamais, moi, ce sur quoi je vais essayer de pousser dans la mesure des moyens qui sont faibles, c'est qu'à un moment ou à un autre, comme les problèmes sont des problèmes de société, qui sont très lourds à traiter, il va falloir rendre la parole au souverain. Et le souverain, c'est le peuple. Donc, à un moment ou à un autre, il va falloir qu'on corrige cette constitution bonapartiste, qui est celle de la Ve, qui est une abomination juridique, pour que le souverain puisse s'exprimer librement, quoi. Donc, moi, il me semble que la porte de sortie, c'est que comme en Suisse, si vous voulez, que lundi matin, quand il y a une élection, on puisse dire le souverain a parlé. Donc, tout le monde se tait, y compris les juges. Donc ça, c'est, donc ça va être ça. Mon combat dans l'année qui vient, est-ce que je vais réussir? Je sais pas. En tout cas, je l'aurais mené.
De toute façon, il y a beaucoup de choses sur ce qui est faisable, ce qui est possible et ce qui est souhaitable en France, mais de toute façon.
Mais c'est dans la constitution de la cinquième, là.
Mais le référendum, de toute façon, ce n'est pas quelque chose dont on pourra se passer à l'avenir, pour une raison, c'est qu'on ne se rend pas compte. Et c'est là où des gens comme Macron ont une culpabilité dont ils ne se rendent pas compte, dont ils se foutent d'ailleurs. Mais quand vous détruisez toute la symbolique d'une population, elle se met pas en croire, elle se met pas à croire à rien, elle se met à croire à n'importe quoi.
Ah ben c'est la fameuse phrase
Ça, de c'est
de ce catholique anglais là qui s'est converti au catholicisme, l'auteur de Father Brown, comment il s'appelait Quand les gens ne croient plus en Dieu, c'est pas qu'ils croient en rien, c'est qu'ils croient en n'importe quoi, mais c'est tout à fait vrai. Donc il faut pas que les Français croient en n'importe quoi, ce serait une imbécilité. Il faut qu'ils se remettent à croire en ce qu'a fait leur vertu depuis 20 siècles, quoi, c'est tout. Et c'est pas un retour vers le passé, parce que j'en suis arrivé à une conclusion curieuse moi-même, aussi curieux que ça paraît, c'est qu'on me dise qu'est-ce que c'est que d'être de gauche, qu'est-ce que c'est que d'être de droite. J'ai bien réfléchi, mais la réponse à laquelle j'arrive, c'est si vous êtes pour la famille, vous êtes de droite. Si vous êtes contre la famille, vous êtes de gauche. Pour moi, c'est la cellule originale de la société, la famille. Et comme je ne définis pas la famille, hein, mais je dis simplement cette espèce de groupe où le communisme familial où tout le monde se sacrifie les uns pour les autres. C'est une drôle de notion, la famille. Et je crois que c'est à peu près ça. Je crois que tous les ennemis dont on parle qui nous détruisent, c'est ceux qui détestent la famille.
En tout cas, il y a une volonté malthusienne et antifamiliale qui est très nette, qui est obsessionnelle. Moi, j'ai passé 5 ans, ce qui est drôle d'ailleurs, parce que moi, je me suis préparé depuis très jeune à affronter l'eurocratie. J'ai fait traduire certains des livres clés anglo-saxons sur la question pour que les gens aient une vision quand même assez nette. Parce que l'avantage, c'est que les anglo-saxons sur ce dossier-là, ils n'ont jamais menti. Bon, alors que nous, par exemple, et ça, c'est pas du tout de la conspiration, hein, aujourd'hui, c'est reconnu universitairement, par exemple, les mémoires de Jean Monnet sont une pure création, qui était d'ailleurs de Durosel, d'ailleurs. Et Monnet lui a regardé ça très loin, comme il regardait tout le monde.
Et c'était écrit par un ancien nazi, d'ailleurs.
Voilà, donc, tout est bidon. Pendant 5 ans, je suis au Parlement européen, évidemment, conseiller d'un groupe d'opposition, bien sûr. Et là, je me rends compte de qui j'ai en face de moi. Et je me rends compte qu'en fait, ils sont bien pires que tout ce que j'avais imaginé d'eux. Et si vous voulez, c'est le côté, la gouvernance par l'absurde des totalitaires. Je vais vous donner un exemple très simple. Moi, j'étais appointé dans les commissions dites lourdes, donc technologie, affaires étrangères, défense et armement. Mais un jour, je vais voir dans la commission la plus drôle, qui est la commission droits de l'homme. Donc là, c'est 100% d'LGBT. Vous avez des ambassadeurs étrangers qui sont terrorisés qu'on leur demande la Gay Pride, tout ça chez eux. On rappelle d'un ambassadeur égyptien qui s'était barré au milieu parce qu'à un moment, il n'était pas payé assez cher pour ça. Et je suis allé voir la commission éducation. Je venais d'être papa. Et là, j'ai déjanté très vite. C'est par exemple, je croise une eurocrate scandinave, mais je ne me rappelle plus de quelle déclinaison, peu importe, m'explique, très gentiment, que l'écriture manuscrite devra disparaître dans l'Europe du futur. Je dis, ah bon? Pourquoi? Vous comprenez, il ne faut pas être archaïque, la technologie, il faut taper sur les tablettes, et la tablette est inclusive. Ah, la tablette est inclusive, pourquoi pas? C'est-à-dire quoi? Il dit, vous comprenez que l'écriture au stylo est discriminante pour les migrants, et vu combien on va en faire venir, la tablette ne les discriminera pas dans leur maîtrise de la langue. Et là, je dis, ah, ok. Pas de souci. Donc pour vous, tout homme, en réalité, ils sont interchangeables, mixables. Pour vous, l'être humain est un bien meuble, pâteux, dont vous pouvez faire ce que vous voulez, et pendant 5 ans dans le monde du futur, du moins ce qu'ils aimeraient être le monde du futur, je me suis rendu compte que, vous vivez dans une sorte de gigantesque ordre du temple solaire, et je me suis dit, à un moment, c'est ce que je... Moi, c'est en tant que père, c'est là où je me suis dit, je pensais avoir affaire à des gens qui étaient... Je pensais avoir affaire à des gens qui étaient plus idiots que dangereux. Au bout de 5 ans, je pense qu'ils sont totalement conscients de leur nocivité, et c'est là où il faut ne pas les sous-estimer. Vous savez, une guerre, il ne faut pas être deux pour la faire. Il suffit qu'il y en ait un qui la veuille.
Absolument.
Et eux, ils la veulent. Et le pire, ils la veulent pour votre bien. Donc ça veut dire qu'ils peuvent vous faire la dernière des cruautés. Ça reste pour le bien.
On connaît ça.
Bien. On connaît ça, oui.
Ben écoutez, ça a été une conversation très intéressante. Tenez-nous au courant à l'Institut des Libertés de ce que vous faites.
Avec
le
plaisir.
Le cas échéant, on est tout à fait ouvert à des tas de choses. Mais je crois que dans l'année qui vient, il va falloir tous bien réfléchir ensemble parce que ça va être très important. Ce qui va se passer dans les 12 mois, maintenant les 8 mois qui viennent.
Ouais, ça va être sportif.
Ouais. Ben, ça va être sportif. Merci en tout cas d'être venu. Vous connaissez les lieux. Vous êtes le bienvenu quand vous êtes dans la rue et qu'il pleut dehors.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.